www.libradio.org.
Alors, nous sommes le lundi 9 août 2021. Bonjour Irène Bélier. Donc vous êtes
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales. Alors voici deux acronymes dont je vais immédiatement dévoiler ce qu'elles signifient. Donc c'est IIAC et LAIOS. Et vous êtes également responsable scientifique du projet SOGIP. Le projet SOGIP, dont on va parler dans quelques instants. Alors l'IIAC, c'est l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, et l'AIOS, ça désigne le laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales. Enfin, le SOGIP, c'est donc un programme de recherche, échelle de gouvernance, les Nations Unies, les États et les peuples autochtones, l'autodétermination au temps de la globalisation. Voilà alors. Madame Bélier, bonjour. Est-ce que vous démentez ou confirmez cette brève assertion? Souhaitez-vous ajouter des choses?
Bonjour. Je vais simplement signaler que j'ai passé la direction du LAIOS à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, je ne suis plus responsable du LAIOS. En revanche, je suis également responsable d'un réseau de recherche international qui s'appelle JUSTIP. Pour acronyme anglais, pour dire justice et peuples autochtones, the justice and justice and indigenous peoples.
Très bien.
Voilà. Donc le programme SOGIP s'est conclu. On en parlera si vous le souhaitez.
Oui.
Et pour lui donner une seconde vie ou prolonger un petit peu ses effets structurants, j'ai mis en place ce réseau international de recherche sur les questions de peuples autochtones et de justice. Pour focaliser sur un point qui me paraît très important aujourd'hui, à savoir la justice dans ses différents volets.
Très bien. Alors oui, effectivement, on va revenir là-dessus. J'aurais voulu tout d'abord se dire qu'on se parle aujourd'hui parce que nous sommes donc le 9 août et que le 9 août, c'est la journée internationale des peuples autochtones, la journée mondiale des peuples autochtones. J'aurais voulu, voilà, vous questionner sur pourquoi l'anthropologie, puisque c'est votre formation de départ, et en quelques mots, c'est quoi l'anthropologie ?
L'anthropologie, c'est la science de l'étude des hôtes de la culture en particulier, pas les autres. Vous voyez, chaque discipline a sa propre, disons, focale d'une certaine manière. Donc l'anthropologie, c'est l'étude dans les sciences humaines. La sociologie, c'est l'étude du, disons globalement à travers l'histoire qu'on ne va pas refaire des sciences humaines. C'est focalisé sur les manières d'être et de faire et disons société dans les sociétés complexes. Et l'anthropologie, au départ, on en appelait ethnologie, était focalisée plutôt sur les sociétés lointaines, les sociétés autres, les sociétés, disons, qui n'appartenaient pas au monde occidental développé. Donc ça, c'était des évolutions qui se sont, disons, une séparation qui s'est opérée au milieu du XXe siècle. Et puis finalement, il y a aussi une autre évolution qui est de passer de l'ethnologie à l'anthropologie. Ethnologie signifiant, disons, la science du peuple, ethnos signifiant peuple en grec, et anthropologie signifiant la science de l'homme, anthropos en grec. Et du coup, on est passé de l'ethnologie, l'étude des sociétés lointaines, à l'anthropologie, l'étude des manières d'être et de faire culturellement parlant. On se préoccupe beaucoup véritablement de ce qui fait culture. Et derrière culture, on considère que finalement, c'est la manière d'être au monde. D'une certaine manière, va déterminer aussi une forme de culture. Donc c'est un peu l'ensemble des institutions, l'ensemble des traits marquants d'un peuple, la langue en particulier, qui va déterminer aussi des éléments forts d'une culture en particulier. Et du fait de cette évolution-là, que j'ai moi-même connue, puisque j'ai dans mon itinéraire de chercheuse, j'ai travaillé tout d'abord en Amazonie avec un peuple autochtone qui s'appelait les Mairuna, qui s'appelle toujours d'ailleurs les Mairuna, mais à l'époque ils étaient connus comme Orejones ou Koto. C'était l'époque où on attribuait des noms de peuples à des gens que l'on dominait. Et puis J'ai ensuite évolué, j'ai travaillé sur la fabrique des chefs à travers l'étude de l'École nationale d'administration. J'ai aussi travaillé sur la Commission européenne pour qu'est-ce que c'est que faire un projet quand on vient de différentes cultures nationales, donc un projet Europe, à quoi cela répond. Et dans cette évolution-là qui m'a amené à travailler véritablement sur des sociétés très développées auxquelles habituellement ça applique la science politique ou la sociologie, comme je l'ai dit au départ, j'ai donné un tour un petit peu différent par la méthodologie et par le type de questions que je pouvais poser pour pouvoir répondre et faire des descriptions analytiques. Et le terme d'ethnologie me paraissait particulièrement pas approprié pour décrire ces ensembles hyper complexes que sont voilà, la fabrique des élites en France ou la fabrique des projets européens en Europe. Et donc, du coup, maintenant, je m'appelle simplement et je me dénomme simplement anthropologue, d'autant plus que le terme ethnologue n'est pas du tout pratiqué en anglais ou même en espagnol. Voilà, anthropologa, anthropologist, ça a un certain sens, tandis que ethnologue n'en a pas. Donc, du coup, comme on est dans un monde internationalisé, que l'anglais est souvent une langue de référence commune, eh bien, je dis simplement anthropologue.
Très bien, voilà. C'était pour clarifier les choses. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a fait que vous avez accosté cette discipline-là et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce projet du SOGIP ?
Alors j'ai déjà très, très jeune, je souhaitais vraiment, j'étais extrêmement intéressée par la culture des autres. Les autres d'une manière générale. Et dans la profession de l'anthropologue et de l'ethnologue, il y a vraiment cette notion d'altérité. On s'intéresse moins au soi qu'aux autres. Et donc, évidemment, le soi et l'autre, ça se définit dans une manière de relation. Mais j'ai souhaité, en effet, donc m'intéresser à des mondes totalement autres que l'on ne connaissait pas, ce que l'on a pu, à un moment donné, dénommer derrière l'exotisme, par exemple. Qui ne m'habitait pas précisément quand je faisais mes études et mon doctorat, mais j'avais véritablement envie de savoir qu'est-ce que c'était que d'être un Indien en Amazonie. Et j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse sur les rapports entre les hommes et les femmes, donc la question de genre, à une époque où c'était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. Donc dans les années 80, parler du genre était quelque chose d'assez innovant. Et je m'intéressais à la construction du genre dans une société sans classe, en l'occurrence les Mairuna dont j'ai parlé à l'instant. Et à partir de cette question-là, de qu'est-ce que ça veut dire qu'être un homme, qu'est-ce que ça veut dire qu'être une femme, comment se construisent les rapports sociaux, donc toute la société autour de cette déclinaison de genre, que je me suis à la fois passionnée, j'ai passé 4 ans en Amazonie, j'ai appris la langue, j'ai vécu très longtemps avec ce groupe, cette société. Et puis, j'en ai fait l'ethno-histoire. Alors là, pour le coup, je vais dire ethno-histoire, parce que dans l'histoire, vous avez toutes sortes de choses, l'histoire du proche, l'histoire du lointain et l'histoire internationale. Mais l'histoire des peuples qui ont été dominés par la colonisation est assez peu connu, et donc ça a donné lieu à un genre qui s'appelle l'ethno-histoire. Donc j'ai été chercher dans les archives des éléments permettant de construire de ce peuple, de savoir d'où il venait, donc de comprendre qu'ils avaient été, notamment objet d'une série d'évangélisations à l'époque de la conquête. À partir du XVIe siècle, j'ai trouvé une trace d'ancêtres des Mairuna, qui à l'époque on appelait Payaguaré. J'ai construit les rapports entre les différents groupes qui étaient déplacés par les évangélisateurs qui allaient dans l'Amazonie qui précédaient les conquérants et qui avaient pour objet de civiliser, avec beaucoup de guillemets autour de civiliser, donc notamment évangéliser, dans quelque chose que l'on appelait les réductions. Et la réduction, c'était de concentrer les peuples rencontrés, donc qu'on a pu appeler, par exemple, au Brésil, on continue de les appeler des peuples sylvicoles, qui est un terme tout à fait, qui reste un petit peu péjoratif, comme si ces peuples faisaient partie de la nature. Ils ont certes un rapport extrêmement proche avec la nature, mais ils ne sont pas nécessairement comparables à des fruits de la nature que l'on pourrait cueillir, voyez, et consommer librement. Donc donc j'ai fait cette histoire. Je me suis à l'époque vraiment travaillant sur les questions de rapport entre les hommes et les femmes, je me suis aperçue également qu'il y avait dans la discipline de la, de la, de l'ethnologie, puisque c'est ce que l'on disait à l'époque, je vous parle des années 80, quand on allait très loin, comme ça, travailler, apprendre une autre langue sur les traces de Lévi-Strauss, on était ethnologue. Et donc, je me suis aussi aperçue que ces peuples étaient considérés quelque part, non seulement comme sans histoire, mais également comme en dehors du politique. Et ça m'a un petit peu dérangée, même plutôt fortement. Moi, j'avais fait des études de Sciences Po, hein, avant de faire des études de sciences. Donc, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Paris. Puis, j'ai fait mon doctorat en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, ça m'a beaucoup dérangée que de voir que ces peuples étaient finalement hors histoire et hors politique. Donc, voilà, je me suis préoccupée de l'histoire et d'écrire et de comprendre cette société sans classe, comment se construisaient des rapports de genre dans une société sans classe. Puis j'ai fait d'autres études que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Mmh. Et à l'issue, disons, de ces autres études dans l'anthropologie des institutions, j'ai contribué à développer un courant analytique et aussi méthodologique et descriptif des institutions, en considérant que les institutions étaient vraiment des ensembles culturellement marqués et que j'ai pu décrire. Et donc, après avoir terminé cela, étant un petit peu lasse des questions européennes que je commençais à connaître beaucoup, j'ai un collègue qui m'a sollicité, qui était un rédacteur en chef de la revue Recherche amérindienne au Québec, une excellente revue sur les questions autochtones au Canada, et qui m'a demandé de faire un numéro sur la mondialisation. À l'époque, je travaillais sur la question de multiculturalisme, de mondialisation. On était dans ces débuts des années 2000, où ça devenait un sujet à la mode. Et un sujet sur lequel il fallait se pencher un petit peu. Maintenant, c'est obsolète, mais à l'époque, c'était encore frais. Et donc, il me demande de faire un numéro avec lui sur mondialisation. Et je voyais pas très bien comment faire un numéro sur la mondialisation, notamment les questions européenne, institutions, FMI et compagnie, que je travaillais à cette époque-là, dans une revue de ce genre, Recherche amérindienne au Québec. Et donc là, j'ai opéré un tournant radical en comprenant à ce moment-là qu'il existait un travail qui se déployait notamment à Genève, autour du groupe de travail sur les populations autochtones. Et j'ai construit un numéro de revue sur mondialisation et stratégie politique autochtone. Et à partir de là, j'ai souhaité moi-même m'impliquer, après avoir, publié, édité des articles dans cette revue de personnes qui travaillaient sur les questions autochtones. J'ai souhaité moi-même m'impliquer dans les questions autochtones et me suis rendue régulièrement d'abord à Genève, puis à New York et ensuite à New York et Genève en alternance, pour comprendre cette chose qui me paraissait absolument extraordinaire à l'époque, d'un mouvement des peuples autochtones qui déployait les artifices et les arts de la négociation pour obtenir la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Mmh. Et voilà comment j'ai mis un pied dans l'engrenage que je n'ai pas quitté depuis maintenant 21 ans.
Eh bien, dites donc. Alors, on va le rappeler tout de suite. Le site internet du SEGIP, c'est segip.org. E-H-E-S-S.fr, on y trouve de très nombreuses ressources, également des vidéos. On y trouve également le film, un film qui introduit le contexte de l'ouvrage, d'un des ouvrages, d'une des publications qui est Le peuple autochtone dans le monde, les enjeux de la reconnaissance, que vous avez coordonné. Et voilà, alors ça c'est pour le site internet. Est-ce à dire lorsqu'on fait ce travail-là, que, en fait, il y a une notion de voyage, mais il y a surtout une notion de habiter? C'est ça. Lorsque l'on rencontre une culture et que l'on doit finalement se départir de ce que l'on a avec nous, de ce qui nous accompagne, de notre essence, est-ce que ça, c'est compliqué?
Je pense que plus que habiter, c'est vivre avec. Mmh. Vivre avec et quand on est passionné, tout est à mesure de la passion. Donc moi, j'avais véritablement envie de connaître ces autres manières d'être et de vivre qui se traduit par... Voilà, quand on est un touriste, on rencontre évidemment la différence culturelle et on peut s'en accommoder, on peut la commenter, on peut faire des tas de choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre quel était, notamment quand j'étais en Amazonie, donc ce type de société assez extraordinaire qui est à la fois une toute petite société. Les Mairuna ne représentent que 500 personnes à travers 4 communautés, habitats dispersés dans la forêt amazonienne, plus ou moins regroupés, donc par ces processus, disons, de colonisation successive. D'abord, il y a eu les évangélisateurs, ensuite, il y a eu les caoutoutiers. Hein. Je veux dire, c'était dans un endroit, disons, frontalier entre le Brésil, la Colombie et le Pérou. Et là, ça a été une opération absolument violente, hein, d'extraction du caoutchouc par lequel la population indienne de différents groupes ethniques a été réduite à presque 10% de sa population. Donc, on peut parler de génocide à cet égard. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de traces dans les archives. En revanche, j'avais des traces orales. Et les traces orales me racontaient un petit peu, enfin, donc, les récits, hein, que les personnes vivantes me faisaient, me racontaient les horreurs de cette période du caoutchouc. Et j'ai trouvé des traces écrites de patrons qui possédaient des familles, orejones, disait-on à l'époque. Et qui disaient, bon, j'en avais 30, il n'y en a plus que 10, quoi. Ou il n'y en a plus que 3, pardon. Ils étaient réduits à 10%. Donc, j'avais 30 familles, il n'y en a plus que 3. Donc, ça, c'était des points importants. Mais à part cela, ils parlaient une langue très différente. Et quand vous parlez une langue différente, qui est une langue à ton, une langue agglutinante, vous donnez aussi le lieu à des représentations du monde distinctes. Et j'étais absolument fascinée par leur mythologie. Et donc, je travaillais sur les rapports entre les hommes et les femmes d'un groupe Tucano occidental, et on avait déjà des connaissances sur les Tucano orientaux de Colombie et du Brésil. Il y avait déjà eu des anthropologues qui étaient passés, qui avaient fait des descriptions, et justement ces descriptions décrivaient un monde entièrement masculin où seules les femmes étaient, disons, circulaient entre les hommes pour être l'objet de mariage ou de rapt parfois, et donc productrice d'enfants qui permettait au groupe masculin, des frères, de se reproduire. Et moi, ça m'avait choquée, puisque moi, d'abord, j'étais une femme, et ensuite, je venais d'une période où on commençait véritablement à affirmer les droits des femmes. Et donc, j'ai voulu travailler sur cette question-là du genre et des femmes. Et à partir de là, j'ai travaillé sur la mythologie. Parce que la mythologie, c'est pas une série de contes et légendes que l'on raconte aux enfants pour s'endormir. La mythologie, c'est une espèce de charte explicative du monde, comme on peut le comprendre dans un certain registre culturel. Donc, à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait notamment ce qu'on appelle aujourd'hui des esprits, qui eux ils appellent les mères de la forêt, mères de l'eau, mères des arbres, Hai-Hai-Sunki, par exemple, ça veut dire le plus grand arbre de la forêt, qui est un arbre en langage vernaculaire, s'appelle Lupuna. Donc voilà, je rencontre l'origine de la mort, l'origine de la forêt, l'origine même l'origine des femmes, comment on fait d'un être une femme. La circulation des êtres entre les mondes souterrains, terrestres et célestes. J'apprends tous les termes qui viennent avec cette représentation du monde. Et puis peu à peu se met en place une cosmogonie, même une cosmovision qui fait sens pour moi. Donc quand quelqu'un vous décrit une cosmovision, vous pouvez vous dire « Oh là là, c'est drôlement exotique, tout ça, je ne comprenais rien ». Mais à un moment donné, quand vous comprenez les rapports qu'il y a entre les êtres qui peuplent la cosmovision, entre les épisodes qui construisent la mythologie et entre les personnes qui la racontent, qui la transmettent, vous avez affaire à une construction sociale, disons, digne de ce nom et qui faisait sens. Donc, c'est ça, vivre avec. Mmh. Vivre avec, c'est pouvoir comprendre pourquoi, lorsqu'on fait une certaine forme de cuisine, on dit quelque chose de plus que le simple goût que l'on peut avoir à la bouche ou plaisir à organiser pour offrir. Voyez ?
Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Alors effectivement, les peuples autochtones habitent tout autour du globe. D'ailleurs, voudriez-vous nous dire quelques mots de cette notion ? Qu'est-ce que l'on entend par peuples autochtones ? Qui sont-ils ? Où habitent-ils ? Et le deuxième volet de la question, c'est concernant ce dont on va parler maintenant, c'est de l'autodétermination, le droit à l'autodétermination à l'aune de la Déclaration des droits des peuples autochtones.